Voilà, un très grand merci, cher Farah, pour ce temps de chant d'adoration devant notre Seigneur. En effet, il est notre Dieu et nous voulons ouvrir sa parole pour recevoir ce qu'elle a à nous enseigner, ce que Dieu a à nous dire pour nous aussi aujourd'hui. Et nous continuons à méditer sur la première épître de Jean. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les derniers versets du chapitre 3. La première épître de Jean, chapitre 3, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. 1 Jean 3. À ceux-là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréé de lui. Voici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. À ceci, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je suis impardonnable. Qui n'a pas, un jour au moins dans sa vie chrétienne, n'a pas prononcé cette phrase ? Je suis impardonnable. Lorsque nous examinons notre cœur, en effet, nous trouvons toujours des choses qui sont condamnables à la lumière de la parole de Dieu. Et en plus de ces choses qui apparaissent simplement contraires à la sainteté et à la justice de notre Dieu, qui pourraient encore se trouver dans notre cœur, en plus de ces choses-là, il y a ces moments de chute, il y a ces moments de désobéissance que nous pourrions estimer peut-être encore trop fréquents dans notre vie, ces moments où nous ne sommes pas vraiment très fiers de ce que nous avons fait, ce que nous avons, peut-être nous n'avons pas fait, ces moments où nous voulons simplement fuir, ces moments de honte, de culpabilité, oui, ces moments où nous sommes tourmentés par un sentiment d'insuffisance, par un sentiment d'incapacité. Dans ces moments où nous vacillons, où notre cœur nous accuse, où notre cœur nous condamne, Jean nous invite à ne pas oublier une chose. Il nous invite à considérer la grandeur de notre Dieu. Il nous invite à porter notre regard vers le Seigneur. Il nous invite à nous abandonner entre les mains de notre Dieu. Il nous invite à nous réfugier en Dieu lui-même. En effet, dans ces derniers versets de ce chapitre que nous venons de lire, Jean évoque l'assurance que nous pouvons et que nous devons avoir en tant que chrétiens face à toute condamnation, face à toute accusation, qu'elle vienne d'ailleurs de notre cœur ou d'ailleurs. Cette assurance est fondée non pas sur notre cœur qui nous accuse, ou d'ailleurs même sur notre cœur qui ne nous accuse pas. Cette assurance, elle est fondée sur Dieu lui-même, ce Dieu qui est bien plus grand que notre cœur. Cette assurance est fondée sur celui qui a commencé cette belle œuvre en chacun d'entre nous et qui s'est engagé de l'amener à son achèvement pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette assurance est fondée sur le fait que nous sommes en Christ. Et être en Christ, c'est être dans la vérité de Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie, nous dit l'évangile de Jean. C'est cette vérité, la vérité de Dieu, Christ, c'est à cette vérité que Jean-Baptiste a rendu témoignage et c'est aussi pour conduire les disciples, les apôtres d'abord, mais par la suite nous, dans toute la vérité qui nous est laissée par le Seigneur, que Dieu a envoyé son Esprit Saint pour demeurer en nous. Jean établit justement un lien entre le verset 18 et le verset 19, c'est-à-dire le verset qui précède notre passage et le début de notre passage en reprenant le terme de vérité. Verset 18, Jean indique l'importance d'aimer en vérité, c'est-à-dire d'aimer un vrai amour qui se manifeste concrètement par des actes aussi bien à l'égard de Dieu qu'à l'égard du prochain, et non pas simplement d'un amour qui se limiterait à de beaux discours et aux bons sentiments. Au verset 19, Jean indique que c'est l'expression concrète de cet amour qui montre que nous sommes réellement dans la vérité. En résumé, nous pouvons aimer en vérité parce que nous sommes dans la vérité de Christ. C'est le fait d'être dans la vérité de Christ qui nous permet d'aimer en vérité. Quelqu'un qui demeure dans le mensonge ne peut pas aimer en vérité. Son soi-disant amour ne peut fondamentalement être que mensonge. Et cet amour-là, ce sont ces expressions de ces amours-là qui sont, à vrai dire, plus un amour tourné vers soi-même pour se satisfaire lui-même que pour satisfaire les intérêts ou le bien, pour chercher le bien de l'autre. Et si aujourd'hui, nous pouvons poser des actes en vérité, c'est parce que simplement nous sommes en Christ. C'est lui qui est la vérité de Dieu. Et en Christ, nous dit l'apôtre Paul, nous sommes devenus une nouvelle création. Les gens, les choses anciennes sont passées, voici que toute chose est devenue nouvelle. C'est pour cela que Jean commence le paragraphe que nous avons lu par, il le commence et il le termine par le même verbe, le verbe connaître. Jean met l'accent sur le fait que notre nouvelle condition en Christ nous permet de connaître et d'avoir la ferme assurance que donne la foi chrétienne. Mais malgré cette assurance que nous donne la foi chrétienne, il nous arrive néanmoins de voir notre cœur nous accuser. Il nous arrive de voir notre cœur nous condamner face à nos manquements, face à nos chutes. Dans le contexte de notre passage, ces manquements peuvent être, à vrai dire, en lien avec le manque de la manifestation d'un amour réel envers les frères et sœurs, et en particulier envers ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous prenons le temps, en effet, de nous examiner devant le Seigneur, à la lumière de sa parole, il se peut que nous arrivions à la conclusion que notre amour envers un tel ou un tel frère ou une sœur n'a pas vraiment été à la hauteur de ce que le Seigneur nous demande, de ce qui est demandé par notre foi chrétienne. Cela peut conduire notre cœur, en effet, à nous accuser, à nous condamner pour un manquement ici ou là, pour d'avoir manqué à notre devoir d'aimer comme le Seigneur nous a aimé le premier. Autre manquement que l'amour fraternel, ce sont ces désobéissances auxquelles j'ai fait allusion tout au début de mon message, ces désobéissances claires qu'il nous arrive de commettre, hélas, contre le Seigneur. Et ces manquements, ces désobéissances, en effet, nous conduisent à nous en vouloir et à nous en vouloir terriblement en nous disant au fond de nous-mêmes, encore une fois de plus, pourquoi ai-je fait cela? Comment suis-je laissé prendre au piège? Pourquoi suis-je encore tombé dans le même travers et comment je n'ai pas pu encore résister? Au psaume 32, David exprime si bien ce débat interne que nous pouvons avoir après avoir péché contre le Seigneur. Et il compare cette situation à quelqu'un qui gémissait à longueur de journée ou encore à quelqu'un dont les eaux se consumaient, tellement la situation est terrible. Nous avons tous, me semble-t-il, connu de tels moments, de ces moments où nous ne sentons pas vraiment fiers de ce que nous avons fait ou de ce que nous n'avons pas fait. Enfin, parfois, le diable aussi essaie de faire passer sa voix pour celle de notre cœur, pour nous accuser. Il a aussi nous accuser à tort ou à raison d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, comme nous dit Jean toujours, mais cette fois-ci dans le livre de l'Apocalypse, qu'il est celui qui accuse nos frères et sœurs jour et nuit. Face à toutes ces accusations, Jean nous rappelle deux choses qui doivent nous aider pour rester pour ne pas, pardon, rester enfermé par ces accusations. D'abord, il nous dit que Dieu est plus grand que notre cœur. C'est la première chose que nous devons retenir et à laquelle nous devons penser lors de ces moments lorsqu'ils s'invitent à notre vie. Lorsque la condamnation de notre cœur est fondée, justifiée, nous devons nous rappeler que de la promesse du pardon de notre Dieu. En effet, Jean a commencé cet épître par nous rappeler que Dieu, si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons, nous les confessons devant le Seigneur, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, pour nous purifier de toute injustice. Cette promesse, elle est pour nous, elle est pour tous ceux et celles qui se tournent vers le Seigneur et qui reconnaissent très sincèrement et aussi amèrement notre péché et implorent la grâce, le pardon de notre Dieu. Nous avons là une belle promesse de ce Dieu qui est prêt à nous pardonner et à nous purifier. Si Dieu peut nous accorder son pardon, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix de tous ses péchés, de toutes ses désobéissances. Dieu nous a arrachés, en effet, du pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans son royaume de lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Et étant unis, en croyant, étant en Christ, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon de nos péchés, en effet, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Ce pardon est pour ceux et celles qui s'approchent de Dieu, pour aussi bien la première fois que pour une énième fois, aussi bien pour le péché commis pour la première fois que pour le péché, hélas, commis encore pour une fois de plus. Il n'y a pas de grand péché qui ne puisse pas être pardonné par notre Seigneur. Même pour ces fautes, pour ces désobéissances, pour ces péchés que nous avons du mal à nous pardonner à nous-mêmes, nous devons savoir que le Seigneur est prêt à nous les pardonner, parce qu'il est simplement plus grand que notre cœur, parce que son amour est plus grand que celui même que nous pouvons nous porter à notre propre égard. Seul le péché contre le Saint-Esprit qui n'est pas pardonnable, d'après ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans l'Évangile. Mais de quoi s'agit-il ? Le péché contre le Saint-Esprit, c'est celui qui consiste à résister, à persister, à refuser, dans l'obstinance de refuser ce que, justement, le Saint-Esprit essaie de démontrer tout au long de l'Évangile, du Nouveau Testament et encore de nos jours, que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Mais pour nous qui croyons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que nous sentons, que nous sommes gênés, que nous sommes touché lorsque nous désobéissons au notre Seigneur, parce que nous croyons que notre Seigneur et Sauveur, et à partir de ce moment-là, nous pouvons nous approcher de lui, revenir à lui en toute liberté, sachant et avec confiance, sachant que nous allons trouver le pardon auprès de lui. Donc, même lorsque les accusations de notre cœur sont justifiées, c'est-à-dire sont fondées sur des actes véridiques, il mérite la condamnation, nous devons nous rappeler de l'amour de Dieu qui va bien au-delà de nos limites, bien au-delà de nos péchés. Et c'est cette vérité profonde de l'amour de Dieu qui nous est rappelée tout au long de la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament et dans l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Je peux évoquer ici cette belle parabole, souvent nommée du fils prodigue, mais à vrai dire, elle révèle davantage le cœur du Père aimant, c'est dans Luc 15. Il est bon donc de nous rappeler de cette vérité lors de ces moments où notre cœur nous condamne à raison. Mais il y a aussi un autre cas de figure, il me semble qu'il ne faut pas écarter. C'est celui où l'accusation n'est pas simplement fondée. Il arrive que notre cœur parfois nous condamne à tort sur des bases qui ne sont pas justes objectivement. Et je pense ici à toutes ces personnes qui sont tellement exigeantes avec elles-mêmes et qui parfois peut-être vont un peu plus loin que le nécessaire. Je n'ose pas dire qu'elles vont un peu plus loin que le Seigneur parce que c'est impossible, mais simplement que le nécessaire. Nous devons être lucides, me semble-t-il. D'autant plus que le diable peut aussi insuffler des pensées dans notre cœur et d'une manière tellement fine que nous pourrions finir par comprendre ou par penser que ses pensées sont les nôtres. L'accusateur des frères peut faire passer sa voix pour la nôtre, d'où l'importance pour nous d'être vigilants, d'être lucides et d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de notre Dieu et aussi à la lumière de la présence de notre Dieu. En tout cas, dans les deux cas, il nous faut, c'est-à-dire que l'accusation soit justifiée ou non, nous devons nous rappeler que Dieu est plus grand que notre cœur. Même si notre cœur nous condamne, Dieu peut nous pardonner si nous revenons à lui, si nous confessons notre péché devant lui. Dieu est plus grand que notre cœur. C'est la première chose que Jean nous invite à considérer. La deuxième, que Jean essaye de, sur laquelle Jean attire notre attention, c'est sur le fait que Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Rien ne peut lui être caché. Il a une connaissance parfaite de notre vie, de nos pensées, de notre situation, une connaissance parfaite de notre cœur, de nos motivations, même les plus profondes, même les plus secrètes. Au psaume 139, David exprime cette connaissance parfaite de Dieu, que Dieu a de chacun d'entre nous avec ses premiers versets que je ne résisterai pas à la tentation de vous lire. Il dit, « Seigneur, tu me sens, tu me connais, tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. » Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant, par derrière, tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance, une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Si le Seigneur a choisi de nous pardonner, de nous aimer, ce n'est pas parce qu'il ignore la gravité de nos actes, ce n'est pas parce qu'il ignore la gravité de nos pensées qui sont marquées profondément par le péché, mais c'est parce qu'il nous connaît totalement, justement. C'est parce qu'il nous connaît toute notre vie et aucune zone ne puisse lui être cachée. Il connaît tout. Il a choisi de nous aimer en connaissance de cause. Le Seigneur choisit de nous pardonner parce qu'il nous aime. Il est compatissant bien plus que nous pourrions l'être envers nous et envers les autres. Saint Augustin, en commentant les versets que je viens de lire du psaume 139, écrit, donne un conseil, et je vous lis un peu son conseil, très court. Il dit, si tu veux fuir, c'est-à-dire fuir devant Dieu à cause de ton péché, fuis vers lui, c'est-à-dire vers Dieu, parce que tu ne peux pas fuir ailleurs. Fuis vers lui. David a goûté à la profondeur de l'amour de Dieu lorsque le Seigneur lui a pardonné son péché, son adultère, et il écrit au psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a plus point de fraude. » Au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur et toi, tu as enlevé la faute, mon péché. » Le Seigneur sait tout et malgré cela, il a choisi de nous pardonner, tout comme il a pardonné à David. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de lui en toute confiance, en toute assurance, même lorsque notre cœur nous accuse et même lorsqu'il nous accuse, à raison, nous pouvons nous tourner vers ce Dieu avec confiance et assurance, comme nous l'avons chanté, comme Farah l'avait mentionné aussi lors de cette première partie de culte. La grandeur de Dieu, la connaissance, sa connaissance parfaite de nous, doivent apaiser notre cœur, ce cœur qui nous accuse à tort ou à raison. Nous ne devons pas oublier que le Seigneur est compatissant et il fait grâce, il est lent à la colère, riche en bienveillance. Oui, face à notre cœur accusateur, nous ne devons pas oublier que le Seigneur est pour nous comme un père. Et il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes que poussière. Voilà pourquoi il éloigne nos fautes de nous comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Voilà pourquoi nous pouvons lui dire toujours avec le psalmiste, psaume 103, « Mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est lui qui pardonne tes fautes et qui te guérit de toutes tes maladies. C'est ainsi que notre cœur peut être apaisé, notre marche avec le Seigneur peut être affermie de jour en jour. Au verset 21 de notre texte de Jean, que nous avons lu au début, il est question d'un cœur qui ne condamne pas, et fort heureusement que notre vie de chrétienne ne se résume pas à ces moments où notre cœur nous accuse et nous condamne. À vrai dire, la plupart du temps, en tout cas j'espère, notre cœur ne nous condamne pas dans la mesure où le Seigneur nous transforme de jour en jour, de plus en plus, pour lui ressembler. Deux bienfaits sont mentionnés dans les versets 21 et 22 pour celui dont le cœur est apaisé, dont le cœur ne le condamne pas. Le premier bienfait, c'est l'assurance de pouvoir nous approcher de Dieu et nous présenter devant lui. Cette belle réalité que nous vivons chaque jour dans notre vie chrétienne et que nous vivons dimanche après dimanche, en tant qu'Église, dans la communauté, cette réalité peut perdre sa valeur à nos yeux si nous ne faisons pas attention. Pour bien saisir le privilège qui est le nôtre de nous approcher comme cela librement devant notre Dieu, nous devons nous rappeler que dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, au Temple, qui symbolisait la présence du Seigneur. Seul le grand prêtre. Et ce n'est pas n'importe comment, et surtout pas n'importe quand. Une journée, une fois dans l'année. C'est Yom Kippour, le jour du grand pardon. Si aujourd'hui nous pouvons nous approcher comme cela devant notre Dieu, devant sa sainteté, devant sa justice, si nous pouvons le faire librement, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. C'est parce que Jésus-Christ a payé le prix de notre désobéissance, de notre péché, de ce qui nous sépare de notre Dieu et l'a fait à la croix. C'est la raison pour laquelle l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à nous approcher librement devant le trône de la grâce. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Un accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau vivant au travers le voile, c'est-à-dire au travers de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi, une pleine foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. C'est donc avec assurance, avec confiance, que nous pouvons nous approcher de notre Dieu. Nous le faisons avec assurance, avec la confiance d'un enfant, qu'un enfant peut avoir lorsqu'il s'approche de son père, et pas d'un père, de n'importe quel père, d'un père aimant, et d'un Père bienveillant. C'est le premier fait dont nous jouissons dans notre vie, dans notre relation au quotidien avec le Seigneur, notre Seigneur Jésus. Le deuxième fait dont nous jouissons porte sur l'oreille attentive que nous trouvons auprès de notre Dieu. En plus d'avoir accès auprès de lui, nous savons que nous sommes aussi entendus et écoutés de la part de notre Dieu. Au verset 22, en effet, nous avons la promesse que le Seigneur entend nos prières et il y répond selon son bon plan pour nous. Parfois, les réponses du Seigneur, en effet, ne vont pas toujours dans la même direction que nous le voulions. Mais qui peut prétendre connaître ce qui est bon pour nous, ce qui est bien pour nous, mieux que le Seigneur lui-même? Personne, bien entendu, dans la mesure où il est notre Créateur. Et nous sommes sa créature, et qui d'autre que le Créateur peut connaître le besoin le plus profond de sa créature? C'est lui, le Seigneur. À partir du moment où nous sommes convaincus que c'est lui qui sait ou qui a le meilleur choix pour nous, pour notre vie, que sa volonté est meilleure pour nous, à partir de ce moment-là, nous pouvons lui faire confiance totalement et recevoir ce qu'il a à nous donner avec reconnaissance, même lorsque la réponse du Seigneur ne va pas dans la direction que nous avions prévue initialement. Et si nous voulons réduire, voire, pourquoi pas, annuler, en tout cas réduire au maximum tout décalage entre notre volonté et celle du Seigneur, il nous faut ajuster simplement notre volonté à celle du Seigneur dans la mesure où celle du Seigneur est la meilleure pour nous. Et pour faire la volonté du Seigneur, de faire de la volonté du Seigneur la nôtre, Jean nous invite à garder ses commandements et à chercher ce qui est agréable au Seigneur. C'est ce que Jésus a fait parfaitement. C'est ce qu'il a fait parfaitement. Il a accompli le commandement de Dieu parfaitement et il a cherché ce qui est agréable à son Père. Et à partir de ce moment-là, il dit dans l'Évangile, Dieu m'a toujours exaucé, mon Père m'a toujours exaucé. Lorsqu'il allait ressusciter Lazare, dans sa prière, il dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Et il précise aussitôt, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Une fois que nous sommes sur la volonté de Dieu, nous pouvons être certains d'être exaucés par le Seigneur. Car le Seigneur n'attend que cela, nous faire du bien, bénir ses enfants parce qu'il nous aime. Lui qui a donné son Fils Jésus-Christ, comment ne nous donnera-t-il pas toute autre chose, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. C'est ce lien donc entre notre demande et la volonté du Seigneur que Jean va souligner aussi au chapitre 5 en disant, versets 14 et 15, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Une fois que notre prière est fondée et portée par la volonté de Dieu, nous pouvons être certains de son exaucement selon la promesse qu'il nous a faite lui-même. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Pour terminer, Jean résume cette volonté du Seigneur dans un double commandement. Croire en Jésus et aimer les autres. Beaucoup de religieux, aussi bien au temps de Jésus que dans notre temps, peuvent prétendre pratiquer la loi de Dieu, le commandement de Dieu, et obéir à son commandement. Mais ici, Jean indique très clairement que l'obéissance au commandement de Dieu passe par la foi en Jésus-Christ. Certains du temps de Jésus prétendent connaître Dieu, mais sans reconnaître Jésus. Et Jean va inviter ses auditeurs dans son épître, juste les versets qui vont suivre, c'est-à-dire au chapitre 4, les six premiers versets, Jean va les consacrer à attirer l'attention contre ces enseignants, ces faux enseignants qui essaient d'enseigner qu'on peut obéir au commandement de Dieu sans croire en Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu, la connaissance de Dieu passe par la foi en Jésus-Christ. En tout cas, Dieu tel qu'il est révélé dans l'Évangile. Croire en Jésus est la base de notre approche de Dieu. C'est en lui seul que nous pouvons avoir et que nous pouvons avoir un cœur apaisé, un cœur pardonné, et aussi un cœur écouté. En plus de la foi en Jésus, il faut aussi aimer les autres, écrit Jean. L'amour des autres était déjà rappelé par Jean dans les versets qui ont précédé et qui ont pour base tout cet enseignement, qui a pour base l'enseignement que Jésus lui-même avait laissé à ses disciples, à savoir « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » ou encore « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ». Il faut donc, d'une part, croire en Jésus-Christ et d'autre part, aimer les autres. Le verbe « croire » qui est employé ici, il est employé dans un temps qui indique un acte ponctuel, un acte qu'on pose une fois pour toutes. Par contre, le verbe « aimer » est employé dans un temps qui indique une attitude permanente. En effet, la confession de notre foi en Jésus-Christ se fait le jour de notre conversion. Et elle s'exprime bien sûr visiblement, officiellement, lors du baptême, elle s'exprime publiquement. Mais c'est un acte posé une fois pour toutes, notre foi. Et c'est cet acte qui va fonder et qui va porter par la suite notre vie chrétienne et fonder sur cette décision. Mais l'amour des autres, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois pour toutes. Nous devons le manifester régulièrement, chaque jour et continuellement. C'est quelque chose que nous sommes invités à vivre jour après jour et jusqu'au dernier jour de notre vie. Croire en Jésus, aimer les autres, résume ici la volonté de Dieu pour nous, une volonté qui nous conduit dans la présence de Dieu, une volonté qui nous assure l'accomplissement des plans de Dieu dans notre vie. C'est ainsi, en gardant les commandements de Dieu, que nous pouvons demeurer en Dieu et Dieu demeurer en nous. Cela rappelle cette belle image que Jean lui-même avait donnée dans l'évangile, dans son évangile au chapitre 15, cette image de la vigne et des serments. Tant que le serment est attaché à la vigne, ce serment portera du fruit. Tant que nous restons attachés dans notre Seigneur, nous porterons du fruit. Oui, tant que nous demeurons attachés à Christ, dans une relation, dans une vie d'obéissance, de repentance, nous porterons du fruit. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls pour, avec nos propres ressources humaines, pour obéir à son commandement, pour demeurer dans l'obéissance, pour rester à son écoute. Mais il nous a envoyé son Esprit Saint, par qui nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur, et c'est aussi par le Saint-Esprit, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous rend capables, qui transforme les dispositions de notre cœur, nos pensées les plus intimes, et qui nous rend capables pour recevoir la parole de Dieu, cette parole qui transforme notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour notre Dieu. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui dispose notre cœur pour recevoir sa parole, pour aimer aussi bien Dieu que les autres. C'est lui qui répand son amour dans notre cœur par son Esprit. Lorsque notre cœur nous condamne, lorsque notre cœur nous accuse, nous pouvons nous tourner vers ce Seigneur, nous pouvons laisser l'Esprit Saint agir en nous, nous transformer de jour en jour pour faire de nous des hommes, des femmes faits à la stature de notre Seigneur Jésus-Christ. Fixons donc notre regard sur le Seigneur et n'oublions jamais qu'il est bien plus grand que notre cœur, qu'il est bien plus grand que notre conscience. Même si notre cœur, notre conscience peut nous condamner, rappelons-nous que le Seigneur veut nous pardonner pourvu que nous venions vers lui et nous confessions notre péché. Amen.